C'est à l'occasion de la parution de son ouvrage Objectif Bastogne que nous rencontrons Jean-Paul Marthoz. Il est l'un des plus grands journalistes d'information internationale en Belgique. Il a notamment travaillé au quotidien Le Soir et comme rédacteur en chef de La Libre Belgique. Mais comme vous allez l'entendre, c'est un homme aux multiples casquettes. Passionné et passionnant, il a durant toute sa carrière cherché à défendre les journalistes aux quatre coins du monde et à transmettre ses connaissances. Il est notamment l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages ainsi que professeur à l'UCL et à l'IEX. Objectif Bastogne sur les traces des reporters de guerre américains raconte le travail des journalistes venus couvrir la bataille des Ardennes à l'hiver 1944. Rempli d'anecdotes, l'ouvrage de Jean-Paul Marthoz nous parle des coulisses de ce travail si particulier qu'est le métier de correspondant de guerre. Mais plus largement, il y décrit les défis auxquels sont confrontés ces journalistes, notamment lorsqu'il fallait apprendre à manier une arme. C'est en décembre 2015 que nous retrouvons Jean-Paul Marthoz au Centre Wallonie-Bruxelles International à l'initiative du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité.
Alors, je voudrais revenir un petit peu à une affaire personnelle. Cette histoire de Bastogne, c'est un peu personnel. Moi, je suis né dans la région, à Marchand-Famène. Mes parents habitaient un petit village sur les lignes de front. Mais ma mère était dans un réseau de résistance qui était juste sur la ligne de front. Et je me souviens encore, quand j'étais gamin, j'entendais mes parents parler en wallon derrière moi, sans m'en parler jamais directement, de toute cette époque qui fut pour eux vraiment l'époque la plus importante, la plus dramatique de la guerre, et qui parlait de... au moment où ils devaient aller ramasser des cadavres de soldats américains et allemands gelés, la ferme où était ma mère était transformée en quartier général d'une unité de l'armée américaine qui allait tenter de reconquérir Bastogne et qui était en bataille à Autun, pas loin. Donc il y a tout un aspect personnel. C'est pour ça que je dédie ce livre à mes parents. Mais il y a aussi un aspect personnel au-delà de cette fait d'être né par hasard dans cette région, cette belle région, célébrée d'ailleurs par certains journalistes américains pour ses paysages, aussi pour ses truites, comme le faisait le correspondant du New York Times. Et il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire que très tôt, quelque part, le hasard a fait que je me suis intéressé à la presse américaine. J'ai eu une bourse Fulbright en 1980, quand j'étais au Soir, dont la thématique était... la presse américaine et le pouvoir. Là, j'ai pu rencontrer pas mal de journalistes américains, parmi les plus grands, lors de cette session qui a duré plusieurs semaines à Washington et à New York. Et j'étais très étonné que très souvent, parmi ces journalistes plus âgés, il y avait certains qui me racontaient « Ah, mais vous êtes belge ?» J'étais le seul belge parmi une délégation française. « Ah, vous êtes belge, d'où venez-vous » Je disais « Je viens des Ardennes. » Au départ, je venais de Liège, parce que je me disais « Vous connaissez ?» Puis je disais finalement, ils me demandaient d'où je venais. « Quoi, vous venez de tel village ?» Certains connaissaient même les villages où je venais, alors j'étais absolument étonné. C'est des journalistes qui avaient fait Bastogne. Alors quelque part, j'ai laissé traîner ce sujet pendant très longtemps, mais j'ai commencé à lire les mémoires de journalistes américains qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale, et certains d'entre eux consacraient une partie de leur mémoire à la bataille des Ardennes, souvent en accordant à cette bataille une importance assez forte, en raison des conditions dans lesquelles ça s'était passé. Et donc, petit à petit, je me suis dit, dans le fond, j'aimerais un jour faire un bouquin qui relierait mon expérience personnelle, l'hommage que je voulais rendre en partie à ma famille, d'une certaine manière, qui a participé à cette époque, en étant dans la résistance, en plus de ça, et aussi à ces journalistes-là, qui, d'une certaine manière, ont contribué, c'est vrai, à forger ma conception même du journalisme. Le livre que j'ai écrit, c'est un livre qui ne parle pas de tous les journalistes, qui parle d'un certain nombre de journalistes qui ont des leçons à apporter, non seulement à nous, collègues, journalistes, mais aussi, finalement, à l'ensemble des citoyens, une conception du métier ambitieuse que Pierre a bien résumé, la liberté avec un grand L, et la liberté d'informer les deux ensemble. Je crois que cet engagement est quelque chose qui caractérise la plupart des journalistes que je mets en exergue. Il y a beaucoup plus de journalistes, évidemment, qui ont participé, qui ont couvert la bataille des Ardennes, que ceux que je mentionne, mais ceux que je mentionne et que je mets en exergue, ce sont ceux qui, à mon avis, ont une leçon à nous donner à tous, au-delà de leur américanité, au-delà de l'histoire de Bastogne. Alors, ce bouquin a plein d'anecdotes, parce que c'est vrai que c'est amusant de reparler d'un certain nombre de personnages qui étaient dans la bataille des Ardennes et de les camper dans dans ce qu'ils étaient. C'était souvent des personnages forts en gueule et de fortes personnalités. D'ailleurs, tous les journalistes, et certains d'ailleurs d'entre eux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est vrai, c'est des gens qui ont une forte personnalité. C'est ce qui fait leur charme et leur puissance journalistique. Mais parler de Hemingway et de Martha Gellhorn, qui était à l'époque son épouse, et Martha Gellhorn vient juste de publier en français, je vous le signale, en français depuis des années, c'était seulement en anglais, enfin du moins on n'avait pas en français, son fameux livre « Le visage de la guerre », qui est une collection de ses meilleurs papiers, dont un ou deux sur Bastogne. Eh bien, Hemingway et Gellhorn étaient en pétard durant la bataille des Ardennes. Hemingway courtisait déjà une autre journaliste, Mary Welch. Et il y a eu des moments absolument incroyables, en pleine guerre, des bagarres dans un hôtel de Luxembourg qui sont épiques, qui appartiennent à l'histoire, à la légende d'Hemingway, mais aussi en partie à celle des Ardennes. Il y a Robert Capa qui se retrouve lui aussi en dans les Ardennes et qui, comme d'autres journalistes américains de récente origine, continue à parler l'anglais avec un fort accent hongrois de sa part. Mais il y avait aussi Kissinger qui était dans les Ardennes, qui était à Houton, qui était à Marchand-Flamen, qui parlait aussi avec un accent qu'il a toujours gardé. Ou Albert Herz, et qui systématiquement se sont fait arrêter par des GIs, par la police militaire, qui craignaient l'infiltration de soldats allemands déguisés en soldats américains, ce qui fut le cas dans le cadre d'une opération organisée par les SS pour infiltrer les forces américaines et jeter le chaos dans les forces américaines, et que donc à plusieurs reprises ils se sont fait arrêter parce que leur accent n'indiquait pas qu'ils venaient de l'Illinois ou de Californie ou de New York, mais qui semblait être venus directement d'Allemagne, et donc ils ont dû répondre à un tas de questions assez spécifiques sur les équipes de baseball, le dernier score de l'équipe de football américain, choses comme ça. Bon, c'est des petites anecdotes, ou bien je parle de Lee Carson, par exemple, qui était la Belle of the Bulge, la jolie fille de la bataille des Ardennes, telle qu'on peut l'appeler, et qui avait suscité la jalousie de ses confrères, parce qu'on la soupçonnait d'user de ses charmes pour avoir des informations particulières. Il y a un fameux juriste américain, il disait, mais comment est-ce que je peux concurrencer avec Lee Carson? Je peux quand même pas danser avec les généraux comme elle le fait, ou danser avec les GI comme elle le fait. Il y a Lee Miller, qui est une journaliste très, très attachante, qui est une ancienne modèle de Vogue, puis qui est devenue journaliste à Vogue, et qui a couvert pour Vogue, donc un journal un féminin, qui a couvert la bataille des Ardennes, qu'on a retrouvée notamment à Luxembourg, et qui a fait d'ailleurs de très très belles photos sur le Grand-Duché de Luxembourg, dont on oublie souvent qu'il faisait partie du territoire touché par la bataille des Ardennes, et qui a fourni à l'histoire du journalisme, de photojournalisme, une des photos les plus célèbres, Lee Miller, nu dans la baignoire de Hitler, en 1945, au moment de la défaite, le jour de la défaite, qui venait de Dachau, et qui a dit, je me suis mise dans cette baignoire pour me laver de Dachau, et qui était filmé par son amant de l'époque, qui était David Sherman, qui était un juif. C'est un symbole extraordinaire qui ramasse toute une série d'éléments de la guerre. Voilà. Il y a toutes ces anecdotes, mais le but de ces anecdotes, d'une certaine manière, c'est d'amener à réfléchir à un autre élément bien plus important, c'est de réfléchir plus largement aux défis du journalisme de guerre. Et qu'est-ce que la bataille des Ardennes, et plus largement la Seconde Guerre mondiale, nous apprennent à la fois sur les règles du journalisme de guerre, mais aussi sur ses dilemmes philosophiques et politiques. C'est un peu ça qui est l'objectif au travers du prétexte de la bataille des Ardennes, c'est de réfléchir plus largement à ce métier lorsqu'il doit affronter une des moments les plus difficiles d'une société, la guerre. Et surtout, lorsque la guerre implique sa propre société, sa propre nation. C'est facile de couvrir un conflit très éloigné où il n'y a pas de véritable participation de ses propres soldats. C'est très facile parce qu'on a une distance immédiate. Mais que fait-on lorsqu'on est journaliste et qu'on doit couvrir une guerre dans laquelle sa propre nation est engagée, les propres soldats sont engagés? C'est vraiment le grand dilemme que posait cette guerre. Alors j'ai tirer une série de remarques, on va certainement en aborder d'autres tout à l'heure avec les autres intervenants. Première remarque des journalistes, moi, ça m'a frappé, ils sont sur le front, ils sont avec les troupes, ils sont vraiment ils accompagnent vraiment les soldats en première ligne, contrairement à ce qui s'est passé plus tard dans d'autres conflits, où finalement ils s'étaient parqués dans des camps de presse en attendant que tout se passe. Bon, je viens de parler avec Josie Dubié de Panama tout à l'heure. On s'était rendu à Panama à l'époque ensemble, juste après l'invasion de Panama par la main américaine en 1990 et 89-90. À l'époque, les soldats américains avaient été parqués dans une base aérienne et ne pouvaient pas. Les journalistes américains ne pouvaient pas informer sur ce qui se passait, notamment dans un quartier populaire de Panama. Et on ne savait pas à l'époque qui croire l'armée américaine qui disait il y a eu quelques morts, ou croire finalement les Panaméens qui disaient il y a eu des centaines et des centaines de morts dans ce quartier de El Chorrillo. Il n'y a pas de journalistes. Donc il n'y avait pas moyen de vérifier de manière indépendante. C'est par la suite qu'il fallait rétablir par des témoignages, par des interviews. Mais ça montrait bien la différence qu'il y avait entre la Seconde Guerre mondiale, où les correspondants de guerre américains, qui étaient d'ailleurs portaient l'uniforme, avaient un grade de capitaine. Les soldats devaient les saluer. Ils avaient accès aux messes des officiers. S'ils étaient arrêtés, ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre. Ces gens-là étaient avec les troupes, ils étaient dans les trous de renard, ce fameux trou de petite tranchée où étaient les soldats américains. Ils étaient avec, dans les péniches de débarquement en Normandie, par exemple. Et d'ailleurs, à un point tel, le risque était tel que l'armée américaine avait demandé à tous les, ce qu'on appelait les invasion reporters, les reporters d'invasion, de donner leur nécrologie. Parce que on sait très bien qu'il y avait un risque immense, aussi grand que les GIs avec lesquels ils allaient avancer sur les plages du débarquement. Ils étaient dans les avions bombardiers qui allaient en Allemagne. On sait que seulement un quart des équipages sortaient vivants de ces opérations sur le long terme, vivants ou pas blessés. Enfin, il y avait trois quarts de casualties pour les pilotes. Et là, en plus de ça, ils étaient mal reçus au départ par l'équipage. Pourquoi ? Parce que mettre un journaliste dans un avion bombardier, c'était en fait retirer un mitrailleur. Il n'y avait pas de place pour d'autres. Donc il n'y a pas de place pour un journaliste. Il fallait enlever un mitrailleur. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs journalistes devenir mitrailleurs. Donc, il y a eu des journalistes qui ont appris à tirer et qui ont outrepassé une des règles fondamentales, finalement, du journalisme, c'est qu'on ne porte pas d'armes, on ne participe pas au combat. Eh bien, on a vu Walter Cronkite, qui était un des plus célèbres journalistes américains, qui raconte dans ses mémoires que, contrairement à toutes les conventions de Genève, il a appris à tirer, à mitrailler. Il espérait quand même ne pas avoir tiré sur les avions américains plutôt que sur les avions allemands, parce qu'il se demandait, évidemment, ce qui aurait pu se passer. Alors ça, c'est une caractéristique, c'est cette présence vraiment au cœur des combats. Et il y a un journaliste qui exprime extrêmement bien ça. Il n'était pas dans les Ardennes, mais il a influencé le journalisme de guerre américain de manière fondamentale. C'est Honey Pyle, qui est un journaliste qui travaillait pour une agence de presse qui diffusait à des dizaines de millions de personnes ses reportages. C'était vraiment le copain du soldat. D'ailleurs, les généraux disaient, quand Honey Pyle est avec nous, les soldats se battent mieux. Il était très proche des soldats et c'était un personnage absolument fascinant. Et là, c'est une caractéristique intéressante, c'est que les correspondants de guerre américains de l'époque étaient très proches des ploucs. Ils se sentaient extrêmement proches, finalement, de ces soldats de base, de ces fantassins. Et ça se retrouve dans tous les reportages. Bien plus qu'aujourd'hui, où il y a une cassure presque sociologique entre les reporters de guerre qui appartiennent très souvent à la classe moyenne supérieure, qui ont fait des études à Harvard ou autre, et le soldat de base, qui maintenant, aux États-Unis de plus en plus, provient des minorités sous-privilégiées des États-Unis. Et donc, il y a vraiment une cassure culturelle qui complique la relation entre les soldats et les correspondants. Et c'est quelque chose qu'on voit dans le reportage actuel, d'ailleurs. On parle assez peu des soldats, sauf quand il y a plus ou moins un projet spécifique d'un journaliste qui se dit « je vais passer des mois avec les soldats et je vais en tirer un documentaire ou un reportage ». Donc ça, c'est vraiment une première chose. Ils sont très proches des soldats. Honey Pyle est l'exemple même de ce journaliste fantassin. Il se méfie des hauts gradés. C'est quelque chose qui est présent dans l'ensemble des livres, des mémoires que j'ai pu lire. Il se méfie des hauts gradés. Pas de tous, ils ont des relations pas très bonne avec certains hauts gradés, par exemple avec Eisenhower, avait le respect de l'ensemble de la presse. Patton était un personnage qui polarisait extrêmement fort. Mais ils avaient peur des hauts gradés, non pas seulement parce qu'ils sentaient que parfois certaines décisions étaient prises envers et contre tout et dont souffraient les petits soldats dont ils se sentaient proches, parce qu'ils étaient avec eux dans les tranchées. Ils vivaient la saleté, la peur, le sang. Ils étaient très proches d'eux. Mais aussi parce que quelque part, et ça rejoint une des remarques que je vais faire pour la suite, ils avaient un sentiment très démocratique de leur rôle et du rôle des pouvoirs aux États-Unis. Ils se méfiaient, comme Eisenhower d'ailleurs, d'un pouvoir trop important des forces armées dans la politique américaine. C'est le fameux complexe militaro-industriel que Eisenhower, ancien général, insoupçonnable, allait dénoncer en 1961 lorsqu'il remit les clés de la Maison-Blanche à John Kennedy. Et c'est quelque chose qui est très présent, par exemple, dans les chroniques de Anson Baldwin, qui était le spécialiste de la défense pour le New York Times, qui vraiment met en garde la population américaine et les autorités américaines de bien définir les rôles. Très respectueux des forces armées, mais chacun à sa place. Et que le pouvoir civil doit continuer à être celui qui, parce qu'il est légitimé par le suffrage universel, qui donne le « là » dans la relation de l'armée et la politique. Une autre caractéristique, ils sont au front, ils ont peur. Ce sont des journalistes qui disent clairement qu'ils ont peur, que c'est quelque chose qui vraiment, cette guerre en fait, c'est quelque chose qu'ils ne font pas avec plaisir, ils ne vont pas au front, ils ne sont pas camés à la violence, ils ne sont pas des gens obsédés par le bang-bang, ils y vont parce qu'il faut y aller, c'est leur devoir. Et tous expriment cette peur, par exemple Walter Cronkite de nouveau, donc Walter Cronkite qui était à l'époque journaliste de United Press, qui est une des trois grandes agences américaines de l'époque, et qui est après devenu vraiment la vedette de CBS TV, qui était la chaîne dans les années 60 la plus célèbre des États-Unis, et qu'on appelait la personne en qui l'Amérique a le plus confiance. Walter Cronkite était cette personne-là, ce personnage-là. Eh bien, Cronkite, dans ses mémoires, raconte très humblement qu'il était à Asnois, donc, et il y a une Jeep qui arrive avec le patron de la 101e aéroportée qui était à Bastogne. Ce général était allé à Paris et il rentrait reprendre la direction de ses troupes durant l'encerclement de Bastogne. Alors, il demande à Cronkite, il y a une place dans ma Jeep, vous pouvez venir avec moi. Et on traverse les lignes. Il fallait traverser les lignes allemandes. Donc, c'était un risque absolu. Et là, il a dit, non, je ne le fais pas. J'étais dans les bombardiers au-dessus de l'Allemagne. J'ai été parachuté au-dessous d'Arnhem. Je suis tombé dans un champ de patates avec les planeurs. On m'a tiré dessus quand j'étais dans les pays de débarquement. Non, je ne peux plus. J'avoue que j'ai peur. Je ne peux plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent, finalement, parmi ces journalistes. C'est quelque chose qui leur rend honneur, je trouve, finalement, parce que ces journalistes n'aiment pas la guerre. Et ça, c'est présent dans l'ensemble des chroniques qu'ils envoient. Pratiquement tous disent la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Aussi bien Andy Rooney, qui devint lui aussi un des grands présentateurs de la télévision américaine, qui dans ses mémoires raconte son dégoût de la guerre et son refus, après la guerre, d'aller voir des films de guerre. J'ai aucun plaisir à voir des films de guerre. J'ai vu tellement de souffrances, tellement de douleurs, tellement de sang, tellement de massacres dans mes reportages que je suis écœuré par ça. Alors, Annie Pyle le dit aussi. Annie Pyle, qui était vraiment le fantassin, lui aussi le dit. Il a une distance il a une fatigue par rapport à la guerre. Et dans sa dernière chronique, en 45, on sent cette fatigue par rapport à la guerre. Et Martha Gellhorn, elle a une phrase dans ses mémoires, et ça vous retrouverez certainement dans son livre « Le visage de la guerre », qui est une très très belle réflexion sur le journalisme, mais surtout sur la guerre et sur la morale en général. Elle disait « Quel monde, quand on pense que notre Seigneur a pris la peine de mourir pour lui, est-ce que quelqu'un peut mettre un terme à cette cruauté folle et meurtrière qui est un poison dans le sang de l'actualité ?» C'est comme ça qu'elle conclut un de ses papiers sur la couverture de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un premier aspect. Ces gens sont au front, avec les soldats, et ça détermine en grande partie, finalement, la manière dont ils couvrent cette guerre. Respect pour les ploucs, méfiance à la guerre dégradée, peur et dégoût de la guerre, ou du moins fatigue par rapport à la guerre. Un deuxième élément qui est important, ils se battent contre la censure. Il y a une censure. Et comme le disait un journaliste d'un magazine qui critiquait la censure qui a régné durant les premiers jours, surtout de la bataille des Ardennes, il a comparé la censure à la purée de... C'est une purée de pois, la censure, ce que disaient les communiqués officiels, semblait à la purée de pois qui règne sur l'Ardenne. Et c'était vraiment un refus de cette censure. Cette censure était acceptée d'une certaine manière lorsqu'elle touchait les questions qui auraient pu mettre en danger les opérations militaires ou les soldats. Et là, il n'y avait pas de doute. Aucun journaliste américain ne contestait qu'il fallait évidemment éviter. Et c'est là qu'intervenait le crayon bleu, on appelle ça « blue line », on soulignait en bleu les passages qui devaient être enlevés. Là, personne ne contestait évidemment qu'il ne fallait pas donner des éléments qui auraient pu mettre en danger les forces américaines ou donner un avantage à l'ennemi. Ça, c'était certainement totalement accepté. Mais par contre, ce qu'il refusait, c'était de ne pas pouvoir dire le plus possible la vérité sur ce qui se passait sur le champ de bataille. C'est-à-dire de pouvoir dire, lorsqu'il y avait un échec, lorsqu'il y avait une erreur, de pouvoir le dire. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a provoqué une tension permanente avec une partie du haut état-major. Il y avait un général américain qui disait, il y a Bader Smith qui avait dit, moi, ces journalistes, s'ils ne tenaient qu'à moi, je les fusillerais tous. On ne sait pas si c'était une boutade ou s'il le pensait vraiment. Un autre disait, écoutez, moi, les journalistes, je ne leur dirai rien durant la guerre. Et quand la guerre est finie, je leur dirai seulement qui a gagné. C'était sa conception de l'information. C'était radical pour montrer un peu les tensions qu'il y avait. Et les journalistes cherchaient, eux, justement, à pouvoir exprimer la vérité des combats. Dire, par exemple, sur la plage d'Anzio en Italie, lorsqu'il y a eu un débarquement absolument raté par l'armée américaine, dire que ça ne marchait pas, que l'armée américaine était bloquée, contrairement à ce que les communiqués du haut état-major disaient, qu'il y avait eu des friendly fires, donc des tirs amis, donc des tirs de l'armée américaine sur les soldats américains, qui avaient fait des centaines et des centaines de victimes. Et là, ils se battaient pour pouvoir le dire, en disant que une démocratie doit informer différemment et a une responsabilité de vérité par rapport à sa population. Je crois que c'est un débat qui est permanent et qui est extrêmement présent dans les mémoires des journalistes et qui porte aujourd'hui aussi, d'ailleurs, sa leçon. Donc, il y a cet aspect de la censure existe. Il y a une censure qui a changé au cours de la guerre. Et c'est intéressant de voir comment les États-Unis ont conçu leur censure. Au départ, on cherchait pendant plusieurs années, pendant la première année pratiquement, parce que les Américains sont entrés en guerre en 1941, j'oublie, ouais, c'est pas en 39, en 41, avec un décalage. En 42, la règle était, on célèbre l'héroïsme, la bravoure, le succès. Pourquoi ? En grande partie pour convaincre l'opinion publique américaine qu'il était important de lutter contre le nazisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusque Pearl Harbor, une majorité écrasante de l'opinion américaine et du Congrès américain était hostile à intervenir aux côtés des Alliés contre les nazis. Il y avait vraiment une hostilité due à mille facteurs, tentation isolationniste, l'importance des lobbies, des groupes de pression attachés à des communautés qui étaient ambiguës par rapport à cette guerre. Il y avait des fortes communautés allemandes, fortes communautés italiennes, fortes communautés irlandaises qui ne portaient pas la Grande-Bretagne dans son cœur. Donc il y avait une grande difficulté politique. Et donc il fallait à tout prix montrer que cette guerre était une guerre juste, une guerre dans laquelle le sort des États-Unis était en jeu et dans laquelle l'Amérique allait gagner. C'était important de faire ça. Alors brusquement, en 1943, le président Roosevelt et le général Eisenhower, le général Marshall aussi, ont décidé qu'il fallait en fait changer la ligne de communication. Il fallait montrer au contraire que cette guerre était extrêmement dure, que les efforts considérables devaient être livrer pour pouvoir vaincre le nazisme, que la situation sur le terrain n'était pas claire, qu'on n'était pas nécessairement en train de gagner, parce qu'il y avait aux États-Unis cette tentation de penser que finalement, cette guerre, ça se passait très loin. On n'était pas touché par cette guerre, sauf indirectement par le fait que des gens partaient. Des maris, des fils étaient partis à la guerre, qu'il y avait une industrie qui fonctionnait vers la guerre, mais dans le fond, il y avait une distance très grande, bien plus grande que celle que vivaient, par exemple, les Britanniques, qui étaient, eux, soumis au Blitz ou soumis à une crainte même d'invasion. Donc, il y avait cette volonté de dire, écoutez, il faut faire un effort considérable, et donc, il faut montrer que les GI, ils font un boulot incroyable, mais ils souffrent. Donc, ils ont inversé, en fait, la logique de la... faut dire la propagande, si je veux dire, mais c'était important de voir comment communique un pays en temps de guerre. Donc, ils se battent contre la censure, ça c'est un élément qui est permanent. Alors, moi, ça c'est deux éléments importants. Alors, les journalistes que j'ai choisis dans mon bouquin, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de journalistes qui étaient près de Bastogne ou dans les environs de Bastogne, mais j'en ai choisi une trentaine pratiquement parmi eux, et c'est un peu ceux dont, comme le dit Jean-Jacques Jespers dans sa préface, ceux dont j'ai toujours rêvé. Bon, les gens qui en grande partie m'ont toujours inspiré, dont j'ai beaucoup lu les écrits parce que je trouvais qu'ils ont une conception du métier qui me passionne et qui fait que si je devais encore le faire, je continuerais à écrire « Vive le journalisme ». Voilà, c'est eux que j'ai choisis. Ce sont, en fait, beaucoup d'entre eux sont de beaux personnages. Ce sont des personnages qui ont vraiment de fortes convictions, fortes têtes aussi d'ailleurs, fortes convictions, et qui l'ont montré tout au long de leur vie. Ce qui est intéressant, ce sont des gens qui, durant la guerre civile espagnole ou durant la montée des totalitarismes en Europe, ont déjà choisi leur camp, ont déjà dénoncé. Et on voit, par exemple, que les journalistes qu'on retrouve à Bastogne, quand ils étaient correspondants à Berlin, étaient les premiers à se faire embêter par la Gestapo parce qu'eux n'acceptaient pas de relayer la propagande nazie et disaient, attention, la montée du parti nazi, c'est la catastrophe à terme pour l'Europe, c'est la guerre. Et ça, c'est présent dans les écrits de la plupart des gens. Il y a un qui m'a frappé, moi, c'est Howard Smith, qui a été le dernier journaliste américain à quitter Berlin le jour avant la déclaration de la guerre, avant Pearl Harbor et la déclaration de la guerre américaine, et qui a écrit un bouquin qui est un best-seller qui s'appelle Last Train from Berlin, et qui était présent à Bastogne, qui a couvert de manière brillante la guerre pour CBS News Radio. J'ai réécouté certains de ces programmes extraordinaires, de véritables exemples de journalisme radio, de 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Des textes extrêmement construits, avec beaucoup de nuances, en disant par exemple aussi, l'armée américaine prétend que, ne dit pas l'armée, si par exemple l'américaine disait, il y a eu 50 morts américains et 200 morts allemands, il disait, il y a eu 50 morts américains et 200 morts, il disait, l'armée américaine prétend qu'il y a eu, donc créant cette distance journalistique en fait, alors qu'elle avait aucun doute sur sa loyauté. Et je trouvais ça intéressant. Alors, c'est ce personnage aussi qui, en 1961, faisant un reportage sur la ségrégation raciale aux États-Unis, la lutte des Noirs pour l'égalité raciale, a voulu imposer, dans son documentaire, il a sur CBS en télévision, il a voulu imposer une citation de Edmund Burke, qui était « Pour que le mal triomphe, il suffit que les gens bien ne fassent rien ». Et là, l'éditeur a dit, écoutez, là, c'est prendre parti. Il m'a dit, moi, c'est pas prendre parti, c'est un élément de mon reportage. Et si vous ne le laissez pas, vous dégradez mon reportage. Ils n'ont pas voulu le laisser. Il a quitté CBS News sec. Et il est entré, parce que c'était un grand personnage, le lendemain, ABC News. Enfin, c'est la fluidité du marché américain du journalisme. Et c'est lui qui était le premier... lui qui avait interviewé... John Kennedy et Richard Nixon dans ce fameux débat qui a déterminé le vote à la présidence en 1960, c'est lui aussi qui fut le premier journaliste américain de la télévision américaine à demander la démission de Nixon dans le scandale du Watergate. Donc c'est quelqu'un qui a une logique, une rationalité qui est vraiment appréciable. Alors, leur principe finalement qui s'inscrit dans ce livre, c'est sur des gens qui comme William Shirer, par exemple, qui a était l'un des plus grands journalistes de CBS également, qui était à Berlin, qui a écrit un livre extraordinaire sur son journal de Berlin. Quand vous lisez ça, relisez-le aujourd'hui, et vous pouvez peut-être faire certaines coïncidences entre la situation que vit l'Europe aujourd'hui et la situation que vivait l'Europe dans les années 30. C'est prémonitoire. Son bouquin est extraordinaire, et je pense qu'on devrait le donner comme lecture d'actualité, plus que de lecture d'histoire. Leur principe, c'est quoi ? C'est un journalisme qui affirme fortement son indépendance et sa liberté, donc qui est prêt à se confronter au pouvoir, en disant, écoutez, vous avez votre boulot, nous on fait le nôtre, affirmer cette indépendance, en temps de guerre surtout, parce qu'en temps de guerre, c'est un moment tellement grave pour une société, qu'il faut qu'une société démocratique soit informée le mieux possible sur ce qui se passe. Deuxièmement, un sens profond de l'intérêt public. Ils font du journalisme d'intérêt public, en pensant que le journalisme a un rôle important dans la société pour fournir les informations nécessaires et fournir aussi les idées diverses qui contribuent à un débat démocratique. Et finalement, ils sont engagés. Ils sont engagés pour la liberté. Et cet engagement pour la liberté ne peut pas se faire au détriment de la qualité du journalisme et de son indépendance. C'est ça la véritable équation. C'est ce que moi j'ai appelé en fait dans le bouquin le patriotisme de la liberté. Il y a une fameuse phrase de William Fulbright, qui était le patron de la commission des affaires extérieures du Sénat américain durant la guerre du Vietnam en 1965. Les États-Unis sont en guerre et le patron de la commission des affaires étrangères, je demande si ce serait imaginable dans peut-être d'autres de nos démocraties, dit, défendant le droit des Américains à critiquer l'engagement américain en Vietnam, en pleine guerre, disant, critiquer son pays, c'est lui rendre hommage, et c'est lui rendre service. Se lui rendre hommage, c'est parce que c'est penser qu'il est à même d'être à la hauteur des valeurs qu'il défend, c'est lui rendre service parce que c'est l'empêcher de faire des erreurs dans lesquelles il peut s'enfoncer. Cette phrase, je crois, anime réellement pas mal de ces journalistes que je décris dans le livre, cette volonté de à la fois bien comprendre dans quel enjeu on se trouve, et l'enjeu est terrible, c'est vraiment une guerre entre la démocratie avec tous ses défauts, ben, on peut épiloguer sur tout ça, et le nazisme, le totalitarisme, donc c'est vraiment fondamental. Et deuxièmement, c'est la revendication du droit à la vérité maximale, aussi grande possible, pour réaffirmer finalement cette différence qu'il y a entre un journalisme dans un système dictatorial ou un journalisme dans un système démocratique. Il y a cette fameuse revendication du droit à la critique, et c'est la phrase de Sulzberger, qui n'est pas rien, c'est le patron du New York Times, et la famille Sulzberger est toujours à la tête du New York Times. Alors, lui, dans un échange avec le président Roosevelt, il dit « Le rôle de la presse est d'appuyer le gouvernement aussi longtemps qu'il mérite de l'être. Le pouvoir de la censure est un vin capiteux et ce n'est que par une vigilance constante que la presse peut préserver les libertés que nous défendons contre nos ennemis. » C'est une phrase absolument incroyable, en pleine guerre, oser dire ça à son président. Eh bien, c'est une phrase qu'on rencontre dite différemment dans pas mal d'exemples du livre. Par exemple, Wes Gallagher, qui est le directeur de l'Associated Press, lorsque, le jour de la reddition des forces allemandes, son journaliste Ed Kennedy brise un embargo qui avait été imposé par l'armée américaine, qui devait dire « la guerre était finie, les troupes allemandes s'étaient rendues, et on impose à un journaliste américain de ne pas le dire parce qu'il fallait donner le temps aux soviétiques de venir à Berlin pour avoir une célébration commune. » Il dit « Moi, j'en ai rien à foutre. La guerre est finie, la guerre est finie. C'est l'info. » Il balance l'info. Il y a eu un scandale incroyable, beaucoup de tensions aussi chez les journalistes. Certains étaient d'accord, certains n'étaient pas d'accord. Mais Wes Gallagher a dit à Eisenhower « si c'était moi qui avais dû faire ce choix, je l'aurais fait. » Et Eisenhower lui dit « Mais je vous aurais foutu en prison. » Et Gallagher lui dit « Eh bien, je m'en fous. J'aurais de toute façon, l'info n'aurait pas pu être supprimée. » Donc, c'est ce débat aussi qu'il y a eu avec John Kennedy et le New York Times en 1962 au Vietnam, lorsque David Halberstam, petit journaliste, petit reporter, faisant exactement ce que faisait Honey Pyle, allant avec les soldats dans les rizières, dans les hélicoptères, voyant ce qui se passait sur le terrain, n'allant pas dans les briefings de presse qu'on appelait les folies de 5 heures à Saigon, où il y avait les généraux. Kennedy voit que les articles de Halberstam disent la vérité, que c'est un foutoir ce truc, le Vietnam, on ne va pas gagner si facilement que ça, il y a bien plus d'appui ou d'hostilité au gouvernement appuyé par les Américains que ce que la propagande américaine dit. Il téléphone au patron Sulzberger, nouveau, du New York Times, le fils, et lui dit, écoutez, vous devez ramener David Halberstam à Washington. Le ramener à Washington. Et Sulzberger répond à Kennedy, écoutez, monsieur le président, vous êtes le président des États-Unis, moi je suis le président du New York Times. Et il raccroche. C'est ça, comme ça qu'on doit gérer, me semble-t-il, les relations avec le pouvoir, dans le respect des rapports de force, mais dans ce rapport de force qui doit être un appui aux valeurs fondamentales d'une société démocratique. Voilà. Bon, chacun son rôle. Alors, très vite, pour ne pas aller trop loin dans l'écrit de ce livre, sinon vous n'allez pas le lire, il y a trois éléments que j'aimerais souligner qui me paraissent importants. Dans cette relation de ces journalistes avec leur métier, et ça rejoint d'ailleurs le patriotisme de la liberté tel que je le décrivais, il y a un souci de cohérence. Il faut une cohérence entre l'évocation ou l'invocation de la liberté et ce qu'un État fait. Et dans ce cadre-là, il y a une série d'éléments intéressants qui apparaissent au travers des écrits et des mémoires de ces journalistes. Ed Murrow, par exemple, qui, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important contre Joe McCarthy lors de la chasse aux sorcières. C'est lui qui, dans un débat télévisé, c'est par ses émissions, a montré l'excès, l'extrémisme de ce sénateur républicain, qui avait d'ailleurs été un des avocats des SS américains, SS allemands qui avaient tué 84 soldats américains à Malmedy. Donc, comment a-t-on pu imaginer dans l'histoire des États-Unis qu'une des personnalités qui défendait l'Amérique contre les communistes, c'était quelqu'un qui avait été le défenseur des SS qui avait été responsable d'un des plus grands massacres de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui était le massacre des GIs à Malmedy en 44. Eh bien, Ed Murrow, insoupçonnable de patriotisme, insoupçonnable dans son attachement à la démocratie, disait tout clairement, nous ne pouvons pas défendre la liberté à l'étranger en la désertant chez nous. Et ça, c'était intéressant parce que ça rejoint un des points que je souligne par un chapitre qui n'a pas un lien immédiat réellement avec Bastogne, sauf qu'il y a quelques journalistes noirs américains qui étaient à Bastogne. Mais en fait, c'était toute l'ambiguïté d'envoyer des soldats se battre pour la démocratie, pour l'égalité, contre le nazisme, contre le racisme, avec un système qui tolérait, à l'époque, la ségrégation raciale. À l'époque, l'armée américaine était ségrégée, les banques de sang étaient ségrégées, les infirmières blanches ne pouvaient pas traiter les soldats noirs. Donc, il y a des scènes absolument incroyables où, par exemple, des Noirs américains rentrent dans le sud des États-Unis en 44, en repos, et c'est un journaliste qui raconte, un journaliste américain noir ne peut pas aller manger avec les soldats et les généraux blancs, parce qu'il est blanc, alors que les prisonniers de guerre américains allemands qui étaient là, qui accompagnaient ces soldats, les prisonniers de guerre allemands, eux, peuvent le faire. Et donc, il y a des ambiguïtés incroyables. Et c'est là qu'il y a eu une campagne qui était lancée par la presse américaine noire, presse africaine-américaine, qu'on a appelée la campagne du W. La victoire contre le fascisme à l'extérieur et contre le fascisme à l'intérieur. Cette campagne a eu un énorme succès et a réellement été un des éléments qui explique l'accélération de la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. Et tous les journalistes les journalistes blancs que je décris dans mon livre, ont été, après la guerre, et d'ailleurs certains durant la guerre d'ailleurs, ont été des personnes qui ont participé, qui se sont mobilisées pour l'égalité raciale aux États-Unis et qui donc étaient dans la cohérence par rapport au but de guerre de 40-45. Un deuxième élément, c'est le... ce qui ressort aussi de ce livre, c'est que il y a dans la presse un devoir d'alerte. Je viens un peu de le signaler en citant William Shirer, et c'est son journal de Berlin. Pratiquement tous les journalistes qui étaient à Berlin dans les années 30 ont mis en garde, mais de manière absolument précise, sur la nature du régime nazi. Alors qu'une bonne partie des éditeurs américains, plus conservateurs, qui tenaient compte aussi de la présence d'une forte minorité d'origine allemande ou très à droite aux États-Unis, avaient tendance à essayer d'expliquer le nazisme d'une manière beaucoup moins apocalyptique. Et il y a même, j'ai revu, mais je ne l'ai pas cité dans mon livre, mais une note du département d'État décrivant Hitler qui était modéré par rapport à d'autres membres du parti nazi. C'est absolument hallucinant. Ce réaliste, eh bien, tous ces journalistes ont dit « Attention, dans les prochaines années, l'Europe va à son suicide. » Parce que dans les pays où on est basé, on voit monter cette haine, ce bellicisme, et les États démocratiques ne sont pas à la hauteur de la menace qui va leur tomber dessus. C'est toute la réflexion, évidemment, à propos de la guerre d'Espagne et de la neutralité à propos de l'Espagne également. Mais Martin Gellhorn, dans un de ses derniers articles de 1945, lorsqu'elle sort de visiter Dachau-Buchenwald, elle dit, voilà, il nous a fallu 12 ans pour ouvrir les grilles de Dachau. Nous avons été incrédules, aveugles et lents. Nous ne pouvons plus jamais l'être. Ça, c'est une leçon fondamentale et permanente du journalisme. À partir de quand est-ce qu'on doit passer d'une description plate, si j'ose dire, de la situation, ou au contraire sentir que quelque chose est en train de bouger, interpréter et alerter? C'est un élément qui est très peu... qui a été signalé par ces journalistes-là, mais ce n'était pas la norme dans la presse américaine à l'époque. Alors, il y a eu deux grandes fautes et deux grands oublis, si j'ose dire, dans la couverture de la guerre en Seconde Guerre mondiale. D'un côté, la plupart des médias ont complètement gommé les exactions commises par les forces armées américaines, soit parce que parfois ils ne l'ont pas su, soit parce que parfois ils ont estimé qu'en parler, ce serait compromettre les buts de guerre ou ce serait même se mettre à dos une opinion qu'ils ne l'auraient pas crue. Et donc, il a fallu attendre beaucoup d'années pour que l'on parle des crimes de guerre commis par l'armée américaine, notamment les exécutions, les viols, dont certains se sont déroulés dans la bataille des Ardennes, mais aussi plus tard. Donc ça, c'est un élément sur lequel, aujourd'hui, il y a une autre perception. Et depuis, notamment, le fameux reportage de Seymour Hersh en 1968 sur le massacre de My Lai au Vietnam, il y a une position quand même chez un certain nombre de juristes américains qu'une des obligations pour les juristes américains, enfin les juristes en général, c'est de réfléchir à la manière dont on couvre les exactions commises par son propre camp et qu'il y a une obligation pour les journalistes de la presse démocratique d'être extrêmement attentifs à ne pas laisser passer les exactions commises par son propre camp, dans la mesure même d'ailleurs où à terme ce type d'exactions contribue très souvent plutôt à la défaite qu'à la victoire. Donc ça, c'est une des leçons qui n'est pas présente réellement dans la bataille des Ardennes. Et un deuxième aussi, c'est quelque chose qui est... un des journalistes auteurs, qui est un dessinateur, parce que je parle aussi parmi les journalistes, il n'y a pas que les journalistes presse écrite, presse magazine, radio, il y a aussi les peintres de bataille ou les dessinateurs qui sont très présents durant la guerre, et vous en voyez aussi quelques exemples ici sur la feuille. Eh bien, Howard Brody, qui était un des plus célèbres dessinateurs de l'armée américaine, en fait, il a fait un dessin de l'exécution de trois jeunes soldats allemands par l'armée américaine. Alors, je ne sais pas du tout dans quel cadre c'était, si c'était... je n'ai pas le contexte pour juger moralement de cette exécution, mais il a fait un dessin, et ce dessin a été censuré. C'est son seul dessin qui était censuré durant toute la guerre. Dernier élément, qui est quelque chose à laquelle la presse américaine a fortement réfléchi ces dernières années, c'est aussi l'incompréhension et la non-couverture à la hauteur que ça... que la gravité des choses l'exigeait, de l'Holocauste. Il y a eu extrêmement peu d'articles qui ont compris ou qui ont donné sa véritable dimension à la cascade d'informations qui venait d'Europe sur le massacre des Juifs d'Europe. Et ça, on a vu aussi des tensions entre les médias. Et là, par exemple, le New York Times, qui était propriété d'une famille juive, très américanisée, a une attitude qui était fortement critiquée, même s'ils ont publié pas mal d'articles, même l'histoire officielle du New York Times, écrite pour le New York Times, reconnaît la défaillance de ce journal dans la couverture des massacres de juifs. Et donc, il y a même un bouquin qui s'appelle « L'Holocauste enterré par le New York Times ». C'est un bouquin écrit par une chercheuse américaine qui démontre qu'en effet, le New York Times n'a pas couvert d'une manière suffisamment forte pour qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer. Les infos sont dans le journal, mais ils ne sont pas à la bonne place dans le journal. Ils ne sont pas mis ensemble. Alors ça pose toute une question de l'interprétation du placement des articles, ce qui est une réflexion intéressante. On peut dire, j'en ai parlé, mais page 27, en dessous d'une publicité, page 27, non. Si vous en parlez en page 1, ça change tout, par exemple. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a une presse américaine qui a été constamment à l'avant-garde sur pratiquement tous les sujets, et notamment sur l'Holocauste, c'est des petits magazines d'opinion en général qui ont réussi, eux, à sentir ce qui est en train de se passer et à retirer les leçons de ce qui est en train de se passer en Europe. Il y a The Nation, par exemple, qui est actuellement le plus vieux hebdomadaire d'opinion des États-Unis, fête cette année ses 150 ans, qui est un hebdomadaire de gauche, dont le principal chroniqueur de l'époque, Ive Stone, a vraiment décrit de manière apocalyptique ce qui est en train de se passer pour les Juifs. Et ça reste un exemple de journalisme extraordinaire, de quelqu'un qui était capable de remettre toutes les pièces ensemble et d'en tirer des conclusions et de montrer que historiquement on était face à une abomination. Et Varian Free, qui est un personnage absolument passionnant, qui est le premier Américain à avoir le titre de juste parmi les nations, mais qui est aussi la personne qui a organisé le départ de centaines et de centaines d'intellectuels juifs et résistants à partir de Marseille en 1940-41 vers les États-Unis, dont Einstein, dont toute une série de gens qui lui doivent la vie, en fait, eh bien, lui aussi, dans un article en 1942, avant tout le monde, annonçait le massacre des Juifs d'Europe. Et donc, cet oubli, c'est le côté sombre, ces deux oublis, c'est le côté sombre un peu d'une génération de journalistes que je décris, qui par ailleurs, je trouve, a apporté une contribution fondamentale au journalisme de guerre dans un cadre démocratique et qui, aujourd'hui, certainement, une génération qui peut servir d'inspiration aux réflexions et aux dilemmes permanents de notre métier face à une situation de guerre qui est certainement l'une des plus difficiles que l'on doit affronter comme journaliste. Voilà, je vous remercie.
Vous venez d'écouter Jean-Paul Martoz nous parler de son ouvrage « Objectif Bastogne sur les traces des reporters de guerre américains » paru aux éditions du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Thank you.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.